9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche, c'est la dernière émission de la saison. On va commencer avec Jean Viard qui publie l'an zéro du tourisme. Ces deux années de pandémie nous obligent en effet à repenser notre façon de partir en vacances. Il n'y a qu'à voir les aéroports européens saturés. Je recevrai ensuite le biologiste de l'évolution Frédéric Thomas qui va nous expliquer un certain nombre de paradoxes de la nature. La ménopause par exemple, pourquoi existe-t-elle ? Et le fait d'être gaucher ou d'avoir des jumeaux, ce qui est de plus en plus répandu. Et l'on terminera l'émission avec le boulanger Frédéric Comines qui vient de remporter le prix de la meilleure baguette de Paris après avoir remporté l'année dernière le prix du meilleur croissant au beurre. Autant dire qu'il connaît bien son métier. Jean Viard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes le chantre de la civilisation des loisirs, du temps libre, du tourisme en particulier, que vous analysez avec beaucoup de finesse et d'originalité depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, vous publiez avec David Medioni l'an zéro du tourisme aux éditions de l'Aube. Vous voulez dire qu'après la pandémie de Covid, on repart à zéro ?
Ben disons qu'on peut profiter de l'opportunité pour réfléchir. L'an zéro du tourisme, c'est, je reprends le titre d'Edgar Morin qu'il avait écrit en 1946, c'était l'an zéro de l'Allemagne, si vous voulez. La situation était plus tragique, encore que. Et donc, si vous voulez, c'était pour dire, bon, voilà, tout est à zéro, comment on redémarre là-dessus ? Et au fond, c'est un peu la même histoire, parce que le tourisme, ça s'est développé depuis 300 ans, mais ça n'a jamais été vraiment un projet. Le projet, c'est toujours de construire des villes, développer l'économie, faire des écoles, tout ça. Et puis, au fond, le tourisme, c'est le temps qui reste, c'est le temps libre. Et puis, on a pu, à certains moments, le développer pour des raisons économiques. On a fait certains aménagements, la plan neige, parce que c'était du business. Mais au fond, si vous voulez, on ne s'est pas forcément demandé, une société comme la nôtre, où en gros, on travaille 10% de sa vie, sur toute sa vie, à peu près en temps, c'est une société qui construit, le lien social se construit sur le loisir, le quartier, les courses, le sport, Paris-Plage, la culture, etc. Et au fond, c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est quand même devenu le cœur du lien social. Et moi, je dis souvent, celui qui a un bon temps libre, il aura aussi un bon travail, une bonne production.
Le problème du tourisme, écrivez-vous, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il a toujours été uniquement envisagé comme un flux. Au fond, les acteurs dans leur ensemble voulaient que ce flux s'accroisse constamment.
Oui, parce que plus le flux s'accroît, plus il y a du budget, de l'emploi, de l'activité. Bon. Et toutes les activités qui vont avec. On a construit les autoroutes, fait les voitures, les avions. En grande partie, l'essentiel des gens qui prennent l'avion, c'est des touristes, etc., etc. Donc, si vous voulez, au fond, on a une logique de développement économique, ce qui est une très belle logique. J'ai rien contre le développement économique. Mais à un moment, quand, par exemple, le gouvernement, avant la pandémie, disait 100 millions de touristes étrangers en France, bel objectif. Mais pour aller où? Et pour faire quoi? Si on a 100 millions de touristes étrangers qui vont en été au même endroit, au même moment, c'est pas supportable. On voit bien ce qui se passe à Barcelone, à Venise ou dans certains quartiers de Paris. Donc le problème, c'est que moi, je suis pour qu'il y ait 3 milliards de touristes. Je suis pour que 80% des gens partent en vacances, que tous les jeunes partent en vacances. Mais ça nécessite une politique touristique qui n'existe pas et que, si vous voulez, on réfléchisse effectivement comment on fait pour que les gens aillent tel endroit, tel autre. Et le livre, il est issu d'un colloque international qu'on avait monté à Nantes avec le voyage à Nantes, qui est une invention merveilleuse qui a été créée il y a une dizaine d'années pour donner aux gens envie d'aller à Nantes et de voir la culture à Nantes, etc. Il y avait par exemple les gens de Barcelone qui ont été élus contre le surtourisme, mais qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient très bien diffuser, parce que les gens qui viennent pour des congrès, il faut pas leur proposer les mêmes activités que les gens qui viennent des campings pour manger sur les remblasses à midi, et que les gens qui sont venus plusieurs fois, ben, il faut les emmener ailleurs, parce qu'on va pas aller toujours les jours visiter la même chose. Donc le tourisme, en fait, c'est extrêmement intelligent, il faut analyser ce que veulent les gens, il faut avoir des stratégies de déplacement, d'évitement, et à ce moment-là, on arrive à abaisser les tensions. C'est comme la calanque de Sugiton à Marseille. Oui, il y a 400 entrées par jour, mais 400 entrées à Sugiton, moi j'y allais quand j'étais enfant, c'est génial. Quand il y a 2000 personnes à Sugiton, d'abord pour la nature, c'est une catastrophe, mais pour le vacancier aussi. Donc oui, touriste, Sugiton, ça sera 400 personnes. Ben, faut s'inscrire. Est-ce que c'est très grave? Peut-être qu'on ira l'année prochaine.
Au fond, la pandémie, en arrêtant tout, a fait que les tenants d'un tourisme raisonné et plus durable sont montés au créneau. Et qu'au moment même où l'on prenait conscience que le tourisme était devenu l'un des pivots de notre conception du monde, hein, ce que vous ne cessez de répéter, on a réalisé qu'il allait falloir le révolutionner en le rendant compatible avec de nouvelles exigences environnementales et culturelles.
Bien sûr, mais d'abord on a compris que quand la ville, il n'y a plus de touristes dans la ville et qu'on sort plus pour manger dehors, la ville est morte. Je veux dire, bon, et que si vous voulez, ce qui fait le lien social dans nos villes, ce sont tous ces gens. Et d'ailleurs, souvent, quand on a développé la télé dans les années 60-70, bah, les villes étaient endormies parce que le soir, on était devant le poste. Si on est ressorti dans la rue, bah, c'est parce qu'il y a des touristes, il y a des Allemands, il y a des Autrichiens, des Espagnols. Allez à Paris, ce qui est gay à Paris, c'est qu'on vous parle toutes les langues. Donc vous avez une sonorité, je dirais, qui est passionnante parce qu'il y a plein d'étrangers partout. Et donc, si vous voulez, et ça, au fond, d'un coup, la pandémie l'a marqué plus que tout. 80% des flux de touristes ont été arrêtés. C'est gigantesque pour un secteur économique. Donc lui, il a un problème économique, mais c'est encore un autre sujet. Et donc, c'est une opportunité pour réfléchir, parce que on s'est à la fois rendu compte que le tourisme, c'était essentiel. Alors, le tourisme plus la culture, c'est le premier secteur économique du pays. Je crois qu'il faudrait quand même... L'industrie, c'est très important. J'aime beaucoup l'industrie. Enfin, l'industrie, c'est 11% de l'emploi. Le tourisme, c'est déjà 8, et la culture, c'est 5 ou 6. Donc, faut se rendre compte que tourisme et culture, et je les mets ensemble, parce que il y a 4 millions de gens qui vont dans les festivals. Il y a au Louvre, l'essentiel des gens, c'est des touristes. Si vous voulez, c'est complètement confondu, parce que, en fait, on va vers des lieux magiques, parce qu'on est en voyage. Quand tu allais à Hollande, c'était pour voir les musées, etc. Donc, si vous voulez, on est entré dans cette société, mais effectivement, il faut le penser. Il faut regarder les combats qu'on a avec Airbnb. Airbnb, c'est une idée extraordinaire. Vous louez votre maison quand vous n'êtes pas dedans pour payer votre voyage. Franchement, comme idée géniale. Bon, mais si à côté, il y a des arnaqueurs qui achètent des apparts pour les louer à l'année Airbnb toutes les semaines, c'est pas possible. Donc, il faut contrôler. C'est pas difficile. Airbnb, c'est que par numérique. Donc, à mon avis, c'est pas très compliqué à contrôler. Enfin, il faudrait dire que les villes comme Paris doivent avoir des inspecteurs qui passent leur vie sur Airbnb à vérifier les usages des lieux, etc. Donc, il faut une régulation. Or, le tourisme, au fond, c'est un peu comme si on avait lâché 1,5 milliard de personnes sur les routes, sans code de la route et sans plan. Mais forcément, il y a des bouchons.
On fait une pause, Jean Viard. On se retrouve juste après.
Europe 1.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Nous sommes ce matin avec Jean Viard, qui publie avec David Médioni L'an zéro du tourisme aux éditions de l'Aube. Comment faire pour ne pas revenir un siècle en arrière quand le tourisme était l'apanage des classes privilégiées? Elles seules avaient les moyens de partir ailleurs. Hein. Ou bien il y a 50 ans, quand la moitié des pays du monde ne recevaient pas de touristes?
Ce qu'il faut dire une chose, cette année, 70% des gens envisagent de partir en France. On n'a jamais eu un tel désir de départ. Parce qu'on a besoin d'air, quoi. Et on voit bien, les cinémas, il y a moins de monde, etc. Les spectacles fermés, j'allais dire. Parce qu'on a été enfermés. Ce qu'on a envie, c'est d'être au soleil, de voir la nature, de, je dirais même peut-être de franchir une frontière. Vous voyez, le plaisir de franchir le panneau frontière qui nous a été interdit. Donc, on va exploser ça en liberté, avec le sentiment aussi que la pandémie peut revenir et qu'on peut se faire rattraper par la patrouille. Donc il y a ça. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le tourisme, c'est d'abord intrafamilial. L'essentiel des gens vont dans leur famille. Si vous avez une sœur qui a une maison, qui va habiter à Narbonne, et une autre sœur qui va habiter dans une région moins favorisée, je ne la cite pas pour ne pas me faire d'ennemis, bah, vous allez plutôt être proche de la sœur qui a la maison à Narbonne. Et ainsi de suite, les familles se redéplacent dans l'espace en fonction de leurs membres ou de leurs amis très proches qui sont plutôt dans les régions valorisées. Il y a en France 3 millions de piscines pour tous ceux qui... voyez. Donc, il faut comprendre cette société qui se réorganise comme ça. Mais n'oublions pas que c'est d'abord de l'intrafamilial, que c'est souvent de la fidélité. On va très souvent à un endroit qu'on connaît déjà. Au fond, l'été, c'est une transhumance. C'est comme le mouton, quoi. Il va de la plaine de l'accro jusqu'à un alpage, et puis tous les ans, il recommence jusqu'à ce qu'on le cuise. Et ben, au fond, c'est un peu la même chose, le touriste. Parce que la moitié des gens sont baignés toute leur vie sur la même plage. Parce que si vous voulez, d'abord parce qu'on a tous un peu peur de l'eau, il y a beaucoup de gens qui sont sur la plage qui ne nagent pas, c'est comme beaucoup de gens vont au ski sans skier, ils vont plutôt pour les boîtes de nuit. Donc il faut faire attention aux usages. Hein. Et en plus, il y a un problème, vous avez toujours peur un peu, le tourisme c'est un problème de sécurité, vous n'êtes pas chez vous, souvent vous avez vos enfants, vous avez le chien, etc. Vous n'avez pas envie de les perdre. Or, il n'y a rien. Quand vous allez bambin sur une plage, ils sont tous pareils. Alors, vous étiez chiné, alors mettez une casquette verte, en disant que vous êtes le seul, et puis ils sont 50. Donc, si vous avez tendance à aller à des endroits que vous connaissez, où vous avez un sentiment de sécurité. Donc, ça, c'est la grande transhumance des vacances, si vous voulez. Et puis après, il y a les voyages. Les voyages, c'est autre chose. La fois, vous êtes peut-être allé à New York, ou à Venise, mais ça, dans des voyages, vous les faites souvent, j'allais dire, avant les enfants et après les enfants. C'est souvent, parce que évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes façons de voyager. D'ailleurs, c'est souvent le rôle du camping-car chez les jeunes retraités.
Mais Jean Viard, l'économie du tourisme a aussi quelque chose de dévastateur pour les régions qui en profitent. Elle uniformise tout, elle standardise, elle vend de la pacotille, elle détruit les paysages et elle facilite les pandémies en plus.
Oui, mais vous savez, vous auriez mis, je sais pas moi, une usine d'automobile sur la Côte d'Azur, vous auriez aussi bousculé la Côte d'Azur. C'est-à-dire que toute activité humaine change le territoire. Alors, ce qui est complexe, c'est le tourisme, c'est que si on y va, c'est parce que le lieu est unique. Et si on y va, c'est parce que le lieu est unique, et le fait d'y aller, on a tendance à standardiser les chaînes d'hôtels, les autoroutes, les ronds-points, en plus la France est un des rares pays au monde qui est touristique quasiment partout, et donc du coup c'est très particulier, parce que le moindre petit village a restauré son lavoir, etc., et en plus Airbnb diffuse le tourisme dans la campagne. Parce qu'il y a plein de, on pense qu'au Airbnb des villes, mais moi qui habite à la campagne, je vois plein de Japonais dans des petits bars, dans des villages où d'habitude j'en voyais jamais, etc. Donc il y a tout ce travail-là qui se fait. Alors bien sûr, comme toute activité humaine, elle a des conséquences sur le territoire, mais je dirais que c'est aussi légitime de voyager que de fabriquer un objet. Il ne faut pas considérer que c'est moins important pour un homme. La culture, à mon avis, est au moins aussi légitime que les choses. Donc il faut faire attention aux discours anti-touristiques. C'est pas utile, ils pourraient rester chez eux. Ah oui, on pourrait aussi s'asseoir par terre. Hein. Donc je veux dire, faut faire très attention à ce discours-là, qui à mon avis est un discours anticulturel. Mais après, effectivement, comme tout flux, s'il y a des problèmes de pollution, très importants, on circule essentiellement en voiture parce que c'est facile. Donc ça veut dire que les stations doivent se transformer. Il faut que quand vous arrivez dans une station, vous ayez plus besoin de prendre votre voiture, qu'il y ait des vélos électriques, qu'il y ait tout ça. Si vous voulez, il faut avoir une vision où on va faire baisser l'impact écologique du tourisme. C'est une nécessité absolue, mais attention de ne pas tuer le tourisme.
Alors que faire, Jean Viard, puisque c'est l'an zéro du tourisme, nous dites-vous, est-ce qu'il va falloir rationner les billets d'avion, peut-être même les billets de train, instaurer des quotas journaliers, limiter le nombre d'Airbnb, rendre les vaccins obligatoires, les passes sanitaires indispensables pour voyager, ça pourrait résoudre le problème.
On fait déjà des choses depuis longtemps. Regarde à la pointe du rat, on a reculé les commerces pour que les gens effectivement marchent. Je vous ai parlé tout à l'heure de Sugiton. Regardez, là, il faut s'inscrire pour aller à la Tour Eiffel. Donc je veux dire, forcément, il faut diffuser le tourisme encore plus qu'on ne l'a fait. Ça, c'est extrêmement... Il y a des endroits où il n'y a personne. Allez à Saint-Denis, à la Basilique, il n'y a pas de touristes. Alors qu'à celle de Paris, il y en a plein. Alors qu'elle est très belle, celle de Saint-Denis. Donc c'est pour dire que si vous voulez, ça s'organise le tourisme. C'est des flux. Et surtout, les gens font souvent... Vous voyez, par exemple, quand vous venez dans un pays, vous faites le premier voyage. Ben, le premier voyage, vous faites les lieux les plus typiques. Et la question, c'est que c'est à ce moment-là que on doit vous préparer pour le voyage suivant. C'est-à-dire vous dire, attendez, vous n'allez pas revenir à Paris, vous n'allez pas revenir sur la Côte d'Azur. Vous pouvez aller ailleurs. Vous voyez, il y a la construction. C'est une histoire dans la vie d'un homme. Un voyage, on part souvent en moyenne. Si vous voulez, dans une société, en France, il y a le tiers des gens qui ne partent quasiment jamais. Donc une bonne partie pour des raisons économiques. Pas seulement, il y a aussi le problème des femmes seules qui n'aiment pas voyager parce que une femme seule qui voyage, c'est pas très facile dans une société comme la nôtre. Vous avez le tiers des gens qui partent 3-4 fois par an, et au milieu, je dirais, les gens qui partent une fois par an, et au fond, suivant le fait qu'ils aient fait une bonne année, ils vont jouer en temps. Ils vont faire 10 jours, 15 jours ou 20 jours. En gros, c'est un peu ça, les trois modes de régulation, si vous voulez, des populations. Donc voilà. Donc moi, ce que je pense, c'est que le numérique nous offre une solution à beaucoup de ces problèmes. Parce que si on régule pas par le numérique, on va réguler par le prix. Ce qui est un peu le cas du ski, qui est vraiment hors de prix. Il y a plus que 8% des Français qui skient. Et avec le réchauffement climatique, ça va forcément diminuer, puisque les stations les plus basses, il n'y aura plus de neige. Et donc, celle du haut va être de plus en plus chère, puisqu'il y en aura moins. Et donc, si vous voulez, il faut pas qu'on régule par l'argent. Et le numérique nous permet de dire, oui, le Louvre, monsieur, bien sûr, mais combien de fois dans votre vie vous allez au Louvre? Peut-être que vous allez y aller en 2024. Peut-être que ça sera 10h du soir à 2h du matin. Mais du coup, on vous garantit qu'il n'y aura pas trop de monde. Est-ce que ça vaut pas le coup? Donc, ce genre de deal, on va le mettre partout. Donc, moi, je pense qu'on va créer une toile numérique du tourisme. Vous taperez un endroit, il y aura marqué les hébergements, les choses à faire, les choses à voir, les moments où il y a beaucoup de monde, il y aura marqué comment on peut louer un vélo, où est-ce qu'il y a un vélo électrique, comment on peut y accéder sans voiture. C'est-à-dire, on va vous faire une offre d'habiter le territoire, pas où je dors, comment j'habite ce territoire de manière écologique. Vous voyez, il y a un énorme travail à faire, y compris parce qu'il y a des gens qui aiment bien la foule, il y a des gens qui ne l'aiment pas. J'ai rien contre les gens qui aiment être serrés sur une plage. Ça a du charme aussi de se regarder les uns les autres. Il faut pas non plus, le discours sur le tourisme de masse, mais insupportable. La masse, c'est le peuple, quoi. Je veux dire, tourisme de masse. Ben oui, quand le peuple se déplace, ils sont nombreux, c'est sûr. Et je trouve ça merveilleux. Après, on peut aussi aller sur l'Aubrac. Je vous assure qu'il n'y a pas d'embouteillage. Donc, chacun fait ses choix. Il faut pas être normatif. Il y a une espèce de discours toujours, si vous voulez. Le voyageur, depuis le 19e, c'est comme ça. Il y a le vrai voyageur. Et puis, il y a le touriste. Le touriste, en fond, c'est le nouveau riche qui imite le voyageur. Le vrai voyageur, c'est descendant d'aristocrates, en fond. Si vous voulez, la première station touristique, pour moi, c'était Versailles, hein, où on a faisait venir tous les aristocrates, ils dansaient, etc. Ça leur évitait de faire de la politique et de penser à prendre la place du roi. Et puis, petit à petit, on a coupé la tête du roi et on a inventé les stations touristiques. C'est jamais que Versailles en grand, et c'est les aristocrates qui ont fait ça. Donc, l'art de recevoir, l'art du voyage, l'art de la danse, toutes les stations du 19e, Proust, tous ces objets-là, on a construit dans l'imaginaire. Et puis, petit à petit, c'est arrivé au bord de mer et ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est toute cette histoire qui est passionnante, mais il faut pas le considérer comme un moment secondaire de la vie. D'abord, c'est le grand moment de l'amour de la jeunesse. C'est là qu'on se rencontre, c'est là qu'on s'aime. Avant, les amours, c'était les fêtes votives, c'était les réunions politiques. Ça arrive toujours, mais heureusement. Mais enfin, le cœur aujourd'hui de la rencontre de la jeunesse, c'est entre 15 et 17 ans, c'est les grandes vacances, c'est les moments des premiers amours, par exemple. Vous voyez, c'est des choses comme ça extrêmement importantes. Regardez, quand vous vous promenez. Moi, je suis très ému toujours de regarder les couples âgés qui se tiennent par la main quand ils se promènent pendant les vacances. En ville, ils le feraient jamais. Et d'un coup, vous les voyez, les couples jeunes ont tendance à se tapoter les fesses. Chacun a ses gestes de sa génération, je dirais. Mais c'est des gestes que vous faites parce que vous n'êtes pas chez vous. Il n'y a pas de contrôle social. Donc, vous avez une forme de liberté. Et ça, c'est quand même extraordinaire.
Merci Jean Viard, l'an zéro du tourisme, c'est paru aux éditions de l'Aube. On se retrouve dans un instant avec Frédéric Thomas. On va parler des paradoxes de la nature.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Frédéric Thomas.
Bonjour.
Vous êtes biologiste de l'évolution et avec Michel Raymond, vous publiez Les paradoxes de la nature chez Humaine Science. Un livre tout à fait passionnant, mais qu'est-ce que vous appelez un paradoxe de la nature? C'est quelque chose qui est difficile à expliquer?
C'est ça, c'est une sorte de bizarrerie de la nature. Alors évidemment, notre grille de lecture, ce sont les sciences de l'évolution, hein, la théorie de Charles Darwin, qui est le seul cadre conceptuel qui soit apte à expliquer le monde vivant et son évolution. Et c'est vrai qu'avec des raisonnements évolutifs assez simples, il y a certaines choses qu'on a du mal à expliquer. Et ça demande des raisonnements évolutifs un petit peu plus poussés. Donc ce sont des paradoxes, évidemment, qui ne sont qu'apparents. Plus la recherche progresse et plus on s'aperçoit que ça fonctionne avec des raisonnements un petit peu plus complexes que d'habitude.
Voilà. Il y en a un qui est un très bon exemple, hein, tout le monde va comprendre. Le guépard, qui est pourtant l'animal le plus rapide du monde, rate plus de 60% de ses proies. Ça, oui, c'est un vrai paradoxe.
C'est un vrai paradoxe parce qu'effectivement, il est sous le feu de la sélection naturelle depuis des lustres pour exceller dans l'art de la capture des proies. Et comme beaucoup d'autres prédateurs et tous ceux qui sont des adeptes des documentaires animaliers, comme je le suis depuis ma plus tendre enfance, eh bien, le savent bien, les prédateurs ratent souvent leurs proies. Et alors, en fait, pour comprendre ce paradoxe, il ne faut pas simplement focaliser notre attention uniquement sur le guépard, mais sur l'interaction entre le guépard et ses proies et à la façon dont ça évolue, donc ça coévolue depuis donc des temps évolutifs. Et donc, on s'aperçoit que tout simplement, un prédateur, quand il court après une proie, il court pour un repas, alors que la proie, elle court pour sa vie. Et rater un repas, bon, c'est rarement fatal, hein, et puis on peut facilement avoir une autre opportunité par la suite, alors que se faire attraper par un prédateur, généralement, c'est la fin de l'histoire. Et donc on comprend que les pressions de sélection seront toujours plus fortes sur les proies pour qu'elles apprennent à éviter les prédateurs que sur les prédateurs pour capturer les proies. C'est ce qu'on appelle le principe d'inné-vie.
Il y a le cas de la ménopause. Pourquoi les femmes perdent-elles la possibilité d'avoir des enfants longtemps avant leur mort, alors qu'elles ont une espérance de vie supérieure aux hommes en plus?
Oui, donc en fait, la ménopause est une véritable énigme, puisqu'en fait, seule l'espèce humaine et quelques cétacés par exemple, possèdent des femelles, ou donc des femmes pour les humains, qui arrêtent leur reproduction effectivement bien avant la durée de la vie. Et donc du coup, il y a plusieurs hypothèses. Et donc, d'une façon générale, il faut bien comprendre que dans ce livre sur les paradoxes de la nature, on vous présente l'état des connaissances en ce moment. C'est-à-dire que tous les paradoxes ne sont pas résolus. Voilà. Et donc, par exemple, eh bien, pour la ménopause, eh bien, une des hypothèses consiste à dire que pour une femme arrivée à un certain âge, il y a autant de bénéfices génétiques à arrêter sa propre reproduction hein, pour investir davantage dans l'élevage de ses petits-enfants avec qui elle partage également des gènes. Voilà. Donc en fait, quand l'espérance de reproduction directe devient problématique pour plusieurs raisons, eh bien la sélection naturelle a favorisé des mécanismes pour que ceci s'arrête et afin que justement l'énergie et les ressources soient transférées davantage sur les petits-enfants.
Voilà. Vous voulez dire que les grands-mères sont bénéfiques pour la reproduction, elles gardent les enfants, elles permettent aux parents de faire autre chose, elles prodiguent des conseils avisés, elles sont utiles quoi.
Exactement. Et plusieurs travaux sur avec des séries temporelles sont intéressés à ça et montrent qu'effectivement, l'effet grand-mère est tout à fait bénéfique à la survie des petits-enfants.
Et pas les grands-pères ?
Beaucoup moins. Beaucoup moins. L'effet est beaucoup plus prononcé avec les grands-mères.
Et donc, ça a favorisé la ménopause. Mais est-ce que c'est suffisant ? Parce qu'on pourrait se dire, mais attendez, les grands-mères, si elles avaient continué de faire des enfants, ben, ça aussi, c'était bon pour la reproduction.
Oui, sauf qu'au bout d'un moment, ça devient problématique de produire des enfants arrivés à un certain âge. Il y a des risques de mortalité en couche. Et puis après, il y a des risques de compétition avec les enfants.
Avec sa belle-fille, notamment.
Eh bien, bien sûr. Avec sa fille. Et avec sa belle-fille aussi. Voilà. Donc du coup, il y a, au bout d'un moment, la compétition fait que c'est plus favorable d'arrêter de se reproduire pour la mère et d'aider sa fille ou sa belle-fille.
On observe en Europe, dites-vous, un début de disparition de la ménopause. L'âge recule.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que bon, le monde change. On est dans un monde aujourd'hui qui n'a plus rien à voir sur plein d'aspects avec ce pourquoi nous avons été sélectionnés. Hein. L'environnement a profondément changé. Il y a beaucoup plus de ressources, il y a beaucoup plus d'opportunités de se reproduire tardivement. On a la médecine, choses comme ça. Et donc on est certainement dans une ère où de nouvelles pressions de sélection vont s'exercer sur notre espèce.
La ménopause serait également une prévention contre le cancer.
Oui, alors bon, c'est une hypothèse que j'avais publiée dans PLOS Biology il y a quelques années. En fait, si vous voulez, d'une façon générale, on peut dire que la sélection naturelle, chez la plupart des espèces, a mis en adéquation les risques de cancer par rapport aux défenses anti-cancer que nous avons. Sauf que certaines espèces, comme l'espèce humaine, ont fortement évolué dans un passé récent, sur plein de niveaux, au niveau de la longévité, la stature, des choses comme ça. Et donc, en fait, on a un risque cancéreux qui est aujourd'hui augmenté par rapport à nos défenses qui datent d'une époque où on vivait un peu moins longtemps, on mangeait bio, on bougeait plus, etc. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir également, c'est qu'à chaque grossesse, les cellules cancéreuses qui sont présentes chez une femme vont proliférer. Alors la plupart du temps, c'est absolument pas dramatique, tout simplement parce que ça ne va pas entraîner une maladie métastatique ou avec une réduction de survie associée. Sauf que si le risque est augmenté d'une façon naturelle par l'évolution, suite à cette évolution récente, eh bien on risque cette fois de passer le cap au-delà duquel la maladie devient incontrôlable. Et donc dans ces cas-là, il y avait deux options évolutives. La première était éventuellement de renforcer les défenses anti-cancer, comme c'est par exemple le cas chez l'éléphant, où on a 20 copies d'un gène suppresseur de tumeur, alors que chez nous, humains, il y en a un seul. Et l'autre option consistait probablement, d'après les modèles mathématiques, à stopper la reproduction directe des femmes pour qu'elles investissent, comme je disais tout à l'heure, davantage dans la reproduction, enfin dans l'élevage des petits-enfants. Voilà.
On va évoquer avec vous d'autres paradoxes de la nature, Frédéric Thomas. On fait une pause, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Frédéric Thomas, le co-auteur des Paradoxes de la nature qui vient de paraître chez Humaine Science. L'autre, c'est Michel Raymond. Parmi les paradoxes de la nature, il y a justement le cancer que l'on vient d'évoquer. Ce serait un paradoxe de la nature. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors à la base, c'est un paradoxe parce qu'on peut être surpris que les cellules de notre corps qui coopèrent en général pour nous permettre de fonctionner, soudainement un jour arrêtent de coopérer et commencent à proliférer et de sombrer dans un égoïsme unicellulaire et finissent par nous tuer. Donc c'est quand même un petit peu surprenant comme logique. Et en fait, et quand on regarde de plus près, on s'aperçoit en fait que le cancer est apparu avec l'émergence des organismes multicellulaires il y a environ 1 milliard d'années. Et donc en fait, quand cette multicellularité a évolué, hein, nous sommes des sociétés de clones, hein, vous avez des milliards de cellules dans votre corps qui ont à la base tout le même ADN, donc pour mettre en place des systèmes comme ça, il a fallu réprimer fortement les réflexes d'égoïsme unicellulaire qu'ont les cellules uniques. Hein, on en trouve encore, mais il y en avait beaucoup plus à la fin du précambrien. Donc, ces systèmes de défense, pour éviter l'échappement de clones à tendance égoïste, ils sont extrêmement efficaces, mais ils ne sont pas parfaits. Et il arrive parfois qu'à la faveur de mutations, eh bien, ces défenses qui avaient été, entre guillemets, sélectionnées pour éviter ces proliférations cellulaires, eh bien, justement, ne fonctionnent plus et c'est le cancer. C'est un petit peu comme lorsque l'homme a inventé les freins. C'était une fantastique invention qui a permis ensuite d'être déclinée en toutes sortes de choses, des avions pour atterrir, des voitures qui freinent, des vélos, etc. Il n'empêche que dans chaque système, à chaque fois que les freins ne fonctionnent plus, eh bien, on a exactement la catastrophe que l'on voulait éviter en inventant les freins. Mais là, c'est un petit peu la même chose. On a des défenses anti-cancer et lorsqu'elles ne fonctionnent plus, eh bien, on rebascule dans cet égoïsme unicellulaire ancestral. Et puis, hélas, la sélection naturelle continue de travailler en temps réel à l'intérieur du corps et donc va favoriser les cellules cancéreuses qui vont exceller dans l'art de la malignité en étant capable, par exemple, de se rendre invisible au système immunitaire, en étant capable de disperser pour former des foyers cancéreux secondaires, etc. Donc, en fait, c'est un paradoxe au début de comprendre cette trahison interne, hein, de propres cellules. Mais en fait, quand on regarde là d'où l'on vient et la sélection naturelle qui a façonné les organismes multicellulaires et la façon dont elle favorise toutes les entités réplicatives dans le corps, y compris les cellules cancéreuses, eh bien, hélas, ce n'est pas si étonnant que ça de comprendre que le cancer est inéluctable. Et comme je le pense, hein, si on trouve des formes de vie sur d'autres planètes un jour et qu'elles sont faites d'entités réplicatives comme nous avec nos cellules, eh bien, je fais le pari ici qu'il y aura des processus cancéreux équivalents. C'est inéluctable.
Et les jumeaux, Frédéric Thomas, c'est un paradoxe de la nature, les jumeaux, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Or, ils ont au tout début de leur vie un taux de mortalité supérieur aux autres enfants et ils augmentent la probabilité pour leur mère de mourir en couche. Alors, la gémellité, normalement, aurait dû être éliminée par la sélection.
Tout à fait. Alors, comme vous l'avez évoqué, c'est un paradoxe parce qu'effectivement, beaucoup d'entre eux, dans plein de régions du monde, n'atteignent pas l'âge de 5 ans. Ils entraînent une mortalité supérieure des mères et tout laisse penser qu'effectivement, comme beaucoup de grands mammifères, notre espèce a été sélectionnée pour fabriquer un seul descendant par épisode de reproduction. Or, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jumeaux. Et donc, récemment, a été publiée une étude dans la prestigieuse revue Nature Ecology and Evolution où les chercheurs se sont aperçus, en fait, que la cible de la sélection naturelle, ce n'est pas de produire des jumeaux, mais c'est la polyovulation. Alors, je m'explique. On s'aperçoit qu'il y a un patron temporel sur l'apparition des jumeaux. En général, ce ne sont pas les jeunes femmes qui font des jumeaux, c'est plutôt vers 35-38 ans qu'il y a un pic de grossesse avec des jumeaux. Et en fait, le taux de fausse couche augmente au cours de la vie d'une femme. Et une façon, entre guillemets, de sécuriser une grossesse, qu'il y en ait au moins une qui réussisse alors, lorsque le temps passe, eh bien, c'est de faire de la polyovulation. Et évidemment, de temps en temps, ça marche et donc on a des jumeaux. Donc en fait, ce ne sont pas les jumeaux qui sont favorisés par la sélection naturelle, c'est la polyovulation au cours du temps. Et cette polyovulation conduit, dans certains cas, à produire plus de jumeaux. Voilà, donc c'est une des explications qui a été proposée à ce paradoxe.
Et pourquoi y a-t-il des gauchers ? La sélection naturelle aurait dû les faire disparaître, hein, puisqu'on l'hérite de ses parents en général.
Alors, il y a plusieurs facteurs, oui, il y a des composantes génétiques, bien sûr, et c'est vrai que c'est un paradoxe, parce que quand on regarde sur un ensemble de traits, les gauchers sont pas aussi bons que les droitiers. Par exemple, on s'aperçoit qu'ils sont en moyenne un petit peu plus petits, qu'ils ont plus d'accidents, qu'à la naissance, ils ont des poids plus légers. Chez les personnes présentant des maladies mentales, donc tout ce qui est schizophrénie, épilepsie, troubles de l'apprentissage, on trouve plus de gauchers. Et donc, en fait, bon, tout ceci, au cours du temps, et tout laisse penser également que les gauchers et les droitiers ont coexisté depuis plus de 500 000 ans en Europe, c'est vrai qu'ils auraient dû disparaître depuis belle lurette. Et pourtant, c'est pas le cas. On en trouve, par exemple, en Europe, environ 10%. Et donc, ce paradoxe, en fait, pour essayer de l'expliquer, les chercheurs se sont intéressés à ce qu'on appelle l'avantage du rare. C'est-à-dire que dans la plupart des sociétés traditionnelles, il y a évidemment des combats des interactions. Et c'est vrai que les gauchers, comme on le voit très bien dans les sports, ont souvent un avantage. Si vous regardez les sports où il y a une interaction directe, comme la boxe par exemple,
ou l'escrime,
bien sûr, eh bien il y a un pourcentage de gauchers qui est bien supérieur à la population en général. Et évidemment, c'est parce que les droitiers s'entraînent principalement avec des droitiers, donc ils sont surpris quand il y a un gaucher. Alors que le gaucher, lui, s'entraîne évidemment avec beaucoup de droitiers, et donc il crée la surprise. Et alors du coup, certains travaux montrent que dans les quelques sociétés où il y a encore des combats violents, eh bien effectivement, plus ces combats sont fréquents, font partie de la culture, et plus il y a de gauchers. Voilà. Donc en fait, ils compensent entre guillemets le léger désavantage par l'avantage de la surprise dans les interactions. Alors c'est vrai que bon, il y en a quand même de moins en moins d'interactions aujourd'hui. Bon, il y a les armes
violentes,
violentes. Voilà, c'est ça. Alors ça ne veut pas dire que les gauchers sont plus violents, du tout, absolument pas. Ça veut dire qu'ils créent la surprise dans les interactions violentes.
Il y a beaucoup de paradoxes de la nature qui sont expliqués dans votre livre, Frédéric Thomas. Un dernier peut-être, l'effet placebo. Comment expliquer qu'un faux traitement est une vertu thérapeutique?
C'est un sujet effectivement qui est extrêmement intéressant, c'est absolument vrai, ça fonctionne, l'effet placebo, et c'est pas du tout péjoratif ni méchant de dire ceci. Alors les mécanismes précis qui sont à l'origine de l'effet placebo sont pas connus. Par contre, on sait que les gens qui reçoivent plus d'attention, on sait par exemple que si le médecin est une femme, ça génère un effet placebo plus élevé quand c'est un homme, et souvent les femmes ont plus d'empathie. On sait également par des indicateurs indirects que les personnes, lorsqu'ils sont dans des environnements hostiles, ont plus tendance à développer des troubles dépressifs que quand ils sont soutenus. Donc en fait, il y a une puissance extrêmement élevée, psychologique, qui a évidemment des effets sur le système immunitaire, sur plein de choses comme ceci. Donc l'effet placebo, c'est vrai. Alors du coup, ça peut générer des fois des effets pervers. Quand on teste des médicaments, par exemple, il y a un groupe qui a le placebo et puis il y a un groupe qui a le vrai médicament. Bon. Et donc, le groupe qui a le vrai médicament, souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'il va avoir des effets indésirables, des nausées, des maux de tête, choses comme ça. Et donc, il arrive que les personnes testées se disent « Ah, ben, je suis dans le groupe où j'ai le médicament. » Et donc, ça active l'effet placebo. Et du coup, on peut trouver des fausses vertus à un médicament qui est juste un vomitif, en fait. Voilà. Donc, vous voyez que c'est complexe et puissant, et que ça mérite absolument d'être considéré, qu'il y a beaucoup de recherches actuellement sur l'effet placebo.
Voilà. Ça montre aussi à quel point votre métier est passionnant. Merci Frédéric Thomas. Je renvoie à la lecture de votre livre, Les paradoxes de la nature. Ça vient de paraître chez Humaine Science. C'est parfait pour l'été. On a maintenant rendez-vous avec un boulanger, pas n'importe lequel. Il fait la meilleure baguette de Paris.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Frédéric Comines.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes l'un des meilleurs boulangers de votre génération, à la tête de 4 établissements, une boulangerie à Sceaux, rue de Houdan, une rue légendaire pour les commerces de bouche, une autre rue de Belleville à Paris, une pâtisserie-chocolaterie un peu plus loin, toujours dans la rue de Belleville. Et puis c'est votre boulangerie de la rue Cambronne, dans le 15e, qui vient de remporter le concours de la meilleure baguette de Paris, un prix qui vous permettra de fournir l'Élysée pendant un an. Est-ce que c'est tout l'Élysée, les 800 personnes qui y travaillent à temps plein, ou seulement le président de la République et sa femme qui y habitent?
Alors non, je ne sais pas encore tout à fait, puisqu'on a rendez-vous bientôt là pour savoir un petit peu les modalités, mais je pense pas que ce soit l'ensemble du personnel.
Vous pensez pas? Bah, parce que sinon il vous faudrait beaucoup de personnel quand on gagne le concours de la meilleure baguette de Paris.
Oui, c'est vrai que ça va faire un gros surcroît d'activité.
Est-ce que la recette de la baguette a changé depuis le 19e siècle?
Alors là, c'est une bonne question. Oui, bien sûr, puisque au 19e siècle, on ne faisait pas de baguette à proprement dit, puisqu'on faisait des gros pains qui se conservaient, qu'on pouvait garder longtemps.
On vient de parler dans cette émission des paradoxes de la nature, mais il y a aussi des paradoxes dans la boulangerie. Pourquoi est-ce qu'on a élu pour pain quotidien la baguette qui sèche en 3 heures?
C'est très parisien. Il n'y a pas beaucoup de grosses familles à Paris, donc pas une grosse consommation de pain. Et les gens se retrouvaient facilement avec la baguette pour faire un sandwich. Quelque chose de long, c'est beaucoup plus facile à manger. Pas besoin d'un couteau, on peut le rompre facilement. C'était un côté pratique et c'était vraiment très parisien.
Il y a un autre paradoxe pour moi, c'est pourquoi est-ce qu'on demande toujours, quand on achète du pain de campagne, on le demande tranché, alors que ça sèche plus vite quand c'est tranché?
Ben, on est d'accord, effectivement, c'est un gros paradoxe. Moi, je ne conçois pas d'acheter un pain tranché. Ce qui est excitant, c'est de le trancher, justement, d'entendre cette croûte qui croustille. C'est la première chose qu'on déguste en réalité.
Frédéric Comines, il paraît que votre famille ne voulait pas que vous soyez boulanger comme votre grand-père. Pourquoi ?
Ah, bah, pas tout à fait, voulait pas, mais essayer de m'orienter sur autre chose. Moi, depuis que j'étais petit, j'ai été justement en vacances, puisque ma mère travaillait, m'a élevé seule, elle travaillait, donc j'allais en vacances à la boulangerie et je me levais la nuit pour aller avec mon grand-père. Faut dire la vérité, c'est que c'est un métier quand même qui était très 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 difficile, parce qu'il fallait se lever tôt, il n'y avait pas beaucoup de matériel. De nos jours, on a réussi à moderniser les choses pour faciliter le travail de nos ouvriers. Et puis, il y a beaucoup moins de contraintes qu'auparavant.
Vous voulez dire que vous n'êtes plus obligé de vous lever à 3 heures du matin ?
Si, mais c'est moins difficile. C'est-à-dire qu'on ne pétrit plus la pâte à la main. On a des chambres qui nous permettent de conserver la pâte et d'améliorer la qualité du pain en la laissant fermenter. Quand on est patron, il y a 40 ans, le travail était beaucoup plus difficile parce qu'il y avait moins de mécanisation et il fallait se lever de bonne heure, mais se coucher très tard. Se lever tôt, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est l'heure à laquelle on termine. Et on sait très bien qu'une journée, malheureusement, ne fait que 24 heures. Donc on est obligé de travailler beaucoup. À cette époque-là, en tout cas, ils étaient obligés.
La baguette, quand elle est bien faite, hein, elle est bien meilleure que celle d'autrefois. Pourquoi ? C'est grâce au progrès technologique, ça ?
Non, mais disons qu'on a pu travailler sur pas mal de choses, notamment la fermentation. À l'époque, ils n'avaient pas de chambre froide. Ils fabriquaient le pain, ils le cuisaient, ils le vendaient. Ils vendaient tout le matin, ce n'était pas un problème. Nous, maintenant, on a quand même réussi, avec les chambres froides, les chambres de fermentation, à obtenir un produit qui se conserve mieux et qui a beaucoup plus de goût.
Et vous, alors, qu'est-ce qui vous plaisait tant dans ce métier ?
Moi, ce qui me plaît, c'est de partir de produits nobles, simples, et d'arriver à un produit final qui, pour moi, est la base de notre alimentation.
En France, certainement, mais ce n'est pas le cas partout aussi.
Non, effectivement, ce n'est pas le cas partout. On s'aperçoit de ça quand on part en voyage, où on se retrouve à manger du pain qui est beaucoup moins goûtu que chez nous en France.
Vous êtes un ancien basketteur, Frédéric Comines. Vous mesurez près de 2 mètres. Est-ce que c'est un problème quand on est boulanger ?
C'est un problème quand le matériel n'est pas adapté. Mais moi, en fait, j'ai adapté tout le matériel à ma taille. C'est-à-dire que tous mes plans de travail sont surélevés. Dès que j'achète quelque chose, je fais en sorte que ce soit à la bonne taille. Donc non, c'est pas un problème.
Depuis le mois de mars dernier, on met moins de sel dans le pain. L'accord a été signé au Salon de l'agriculture. C'est pour combattre l'élévation de la tension artérielle et les risques cardiovasculaires. Est-ce que la baguette en a pâti ?
Pas du tout. Justement, encore une fois, nous, on travaille sur des levains naturels. Mon chef boulanger est champion d'Europe de boulangerie. On avait déjà anticipé la baisse du sel. On était déjà passé, nous, depuis quelques temps, avant que le décret ne passe, on avait déjà baissé la teneur de sel dans notre pain. Donc en fait, non, on a travaillé différemment, sur une fermentation différente, et on a réussi à obtenir une baguette très bonne.
Frédéric Comines, on craint une pénurie de blé à cause de la guerre en Ukraine et de la chaleur de l'été. Est-ce que les boulangers français pourraient être touchés ?
Moi, je pense pas. Pour moi, c'est pas possible. J'ai mangé encore la semaine dernière avec mon meunier, les Moulins Bourgeois qui se trouvent en Seine-et-Marne. Effectivement, la récolte sera pas la meilleure année, mais on n'aura pas de pénurie de blé. C'est pas possible.
Pas en France, en tout cas.
Pas en France, ouais, malheureusement pour les autres. Mais nous, en France, on a quand même largement de quoi faire la farine dont on a besoin.
Vous parlez des moulins bourgeois, ce sont les meuniers d'aujourd'hui, hein, et ils accompagnent les boulangers. Il y en a qui ont misé sur vous, qui vous ont aidé à vous développer financièrement, psychologiquement, professionnellement.
Alors, c'est un travail de tous les jours. Les moulins bourgeois m'ont pas forcément aidé financièrement. Par contre, dès que j'ai besoin de faire des stages, d'apprendre des choses, quand je veux travailler sur une farine particulière, ils sont toujours là pour nous accompagner. C'est ça le plus important. Tous les jours, on a besoin d'eux pour essayer de développer notre savoir-faire. Eux, ils ont une équipe de chefs boulangers qui est très forte et qui est complète. Ils savent tout faire. On a tous des lacunes. Et eux, ils sont là justement pour approfondir nos connaissances et puis nous accompagner, nous conseiller et puis faire du mieux possible.
Si je suis un jeune homme ou une jeune femme qui veut se lancer demain dans la boulangerie, il faut que je trouve des moulins qui vont m'accompagner. C'est indispensable.
C'est toujours mieux d'avoir un partenaire, quelqu'un qui connaît. Parce que, en fait, à l'école de boulangerie ou de pâtisserie, on vous apprend à être un bon professionnel. On ne vous apprend pas à être un bon gestionnaire. On ne vous apprend pas à savoir faire des affaires. Ça, c'est quelque chose, soit on l'a en nous, soit on peut le développer avec le temps. Mais à l'école, on vous apprend à faire une bonne baguette, un bon croissant, un bon kouglof, une bonne brioche. Mais on ne vous apprend pas à être un bon gestionnaire. Et c'est là où souvent, moi en tout cas, les moulins bourgeois m'ont toujours aidé dans ce sens. Des fois en me disant, écoute Frédéric, calme-toi un petit peu. Ou des fois en me disant, écoute, oui, t'as raison, essaye de le faire, c'est super.
Avant de remporter le prix de la meilleure baguette de Paris, vous aviez remporté le prix du meilleur croissant au beurre, c'était l'année dernière, une autre tradition française liée au petit déjeuner. C'est quoi le secret d'un bon croissant au beurre ?
Ah bah déjà un bon beurre, bien entendu, une bonne farine, il faut surtout un très bon tour de main. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre beaucoup d'applications, chercher encore une fois la fermentation, j'en parle beaucoup, mais c'est quand même primordial en fait dans notre métier. C'est vraiment quelque chose d'important et un bon croissant, il doit croustiller, il doit avoir un bon goût de beurre, un bon parfum de beurre.
Il y a plus de paramètres à maîtriser pour faire un bon croissant au beurre que pour faire une bonne baguette, non ?
C'est complètement différent. Pour faire un bon croissant, il y a un peu plus quand même de travail.
Je vois qu'il y a de l'animation autour de vous. Une dernière question, Frédéric Comine. Puisqu'on a tendance à toujours choisir le même pain, alors même que dans les boulangeries, il y en a de plus en plus nombreux et de très très différents, quel pain nous recommandez-vous d'essayer ?
Moi, j'adore la tourte de meule. C'est une farine qui est écrasée encore à la pierre de meule et avec un levain naturel, on a une grosse fermentation. On a un pain qui est généreux, donc qu'on fait en boule de 1 kg, avec une croûte qui est assez épaisse, un petit peu caramélisée. Donc on a vraiment un super goût de froment et un bon goût de pain d'autrefois, quoi.
Merci beaucoup Frédéric Comine. Je vous souhaite un très très bon été et d'avoir le plus grand nombre de baguettes possibles à livrer à l'Élysée, donc pendant toute l'année prochaine.
Ben merci beaucoup Frédéric.
À bientôt. Europe 1. C'est arrivé demain et parvenu à son terme. On se retrouve à la fin du mois d'août. Je vous souhaite un très bon été sur Europe 1. Dans un instant, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, présenté par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia. Qui sont vos invités ?
Bonjour à vous, cher Frédéric. Deux invités pour un grand rendez-vous très politique. Le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, et l'eurodéputé François-Xavier Bellamy. Pour les interroger, je serai entouré de Nicolas Barré et Mathieu Bock-Côté.
Merci Sonia. Bonne émission et bon été.
Merci Frédéric, bel été, plein de bonnes choses et à très bientôt. Europe 1.